Bon, on sait que la semaine dernière, le premier ministre Legault a demandé aux médecins spécialistes de se déployer dans les différents CHSLD. 2000 médecins ont levé la main, environ, là, un peu moins. Et là, il y a toutes sortes de directives qui émanent. Et la dernière, du ministère de la Santé, demande la contribution de toutes les ressources qui se trouvent dans les hôpitaux. Donc, on fasse une espèce de déploiement vers les CHSLD de gens qui œuvrent actuellement dans le réseau des hôpitaux du Québec. Autrement dit, on comprend que le feu est pris dans les CHSLD, que la liste des personnes atteintes et les personnes qui décèdent continue d'augmenter, qu'on est en manque de ressources et que là, on veut prendre les ressources du réseau de la santé, des hôpitaux en fait, et de les déployer là-bas. C'est quoi l'impact? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible de faire les deux? J'en parle avec deux invités ce matin, Dr. Jean-François Courval, qui est le président de l'Association des anesthésiologistes du Québec. Dr. Courval, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Et Dr. Antoine Delage, qui est le président de l'Association des pneumologues du Québec. Dr. Delage, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
Je commence avec vous, Dr. Courval. Est-ce que c'est possible d'avoir à la fois des médecins spécialistes qui vont en centre de soins de longue durée et de garder quand même des médecins à l'hôpital, en santé, avec du personnel pour opérer des cas qui doivent être opérés?
Oui, c'est possible. Puis des anesthésiologistes se portent volontaires. Je vous dis pas que la ressource est illimitée, mais dans une certaine mesure, oui, on peut le faire. Il y a toujours un risque. Il y a un risque par rapport aux patients qu'on a délestés et qui sont en attente de leur chirurgie pour des cancers, des chirurgies cardiaques et autres. Puis là, ça fait 6 semaines, puis on s'enligne pour un autre 2 semaines de délestage.
OK. Docteur Delage, de votre côté, là, vous faites avec enfin vos membres, vous-même comme médecin, là, vous faites des suivis. C'est quoi l'évolution des dossiers de vos patients depuis qu'on a commencé le délestage?
Oui, à l'heure actuelle, c'est dépendant des spécialités. Là, en pneumologie, je peux donner l'exemple de ma spécialité. On a délesté beaucoup d'activités électives qu'on faisait et on fait des suivis au téléphone, principalement par téléconsultation avec nos malades, ceux qui doivent être pris en charge de façon plus urgente. Donc, ce qu'on fait à l'heure actuelle, là, pratiquement, c'est surtout des investigations pour des gens qui ont des cancers du poumon suspectés, puis le suivi de nos malades chroniques là, plus sévèrement atteints, là, comme les gens qui ont de l'emphysème, les gens qui ont de l'asthme. Donc, c'est ce que la majorité des pneumologues font à l'heure actuelle.
Est-ce que vous constatez des complications chez certains patients?
Ben, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les soins intensifs là, dans les dernières semaines parce que c'est ma spécialité. Ce qu'on voit, là, les urgences étaient vides. Là. Les gens ne venaient pas consulter pendant le début de la crise. Puis là, on voit qu'il commence à avoir de plus en plus de gens qui viennent et qui se présentent tardivement avec des complications de maladies pour lesquelles ils auraient dû consulter. On voit des gens qui ont des péritonites, qui avaient des perforations au niveau des intestins, qui ont attendu avant d'aller à l'urgence, des gens qui ont eu des infarctus, qui ont attendu, qui ont développé des complications de leurs infarctus. Donc, c'est ce qu'on commence à voir, puis ça, c'est du dommage collatéral de l'épidémie. Donc, il faut faire attention à comment on gère la crise actuellement parce qu'on ne veut pas amplifier ce problème-là puis créer d'autres victimes autres que celles qui sont atteintes de la maladie à l'heure actuelle.
OK. Docteur Courval, moi, ce que j'entends, là, ce sont des médecins qui disent, là, on comprend, il faut y aller dans les centres de soins de longue durée, là, puis il y a beaucoup de médecins spécialistes qui y sont et qui le font. Mais en même temps, le danger, c'est qu'on soit vulnérable maintenant puis sur un horizon un peu plus long dans le réseau des hôpitaux. C'est-à-dire que si on envoie des médecins qui sont en quarantaine, qui peuvent pas, on va se retrouver dans un espèce de cul-de-sac, là.
Écoutez, je suis sensible à la demande du premier ministre. Puis c'est la semaine passée, je parlais avec mon épouse et elle me demande, elle dit « Jean-François, tu vas aller dans un CHSLD ». Je dis oui. Si je dois le faire, je vais le faire. Puis elle dit, comment tu vas faire pour laver les patients? Ben, je vais prendre de l'eau puis du savon. Pour tout le corps? Non. Tu peux pas faire ça. Tu vas transporter le patient comment? Ben, on va prendre les bras, les jambes, puis on va le mettre dans le bain. Non, ça prend une grue, puis il faut que tu saches comment l'opérer. C'est dans tout ça, c'est est-ce que je suis la bonne personne? Moi, je tiens à souligner, par exemple, la meilleure amie de mon épouse, Nadia, travaille à la clinique des jeunes et justement, ils se sont déployés pour aller au centre Héron. Et je dois reconnaître que je suis pas sûr que je suis la meilleure personne. En fait, je reconnais que je suis pas sûr d'être la meilleure. Je suis pas la meilleure personne pour aller aider dans un CHSLD. Moi, ma formation, là, c'est anesthésiologiste. J'ai beaucoup de respect pour nos collègues préposés puis infirmières. Et malheureusement, le cours de préposé 101 puis d'infirmière 101, je l'ai jamais suivi.
Puisque vous êtes donc dans les blocs opératoires pour l'anesthésie, est-ce que, même si on garde des blocs opératoires ouverts, est-ce qu'on a les médicaments nécessaires pour faire... Actuellement, là, on nous dit qu'on gère ça en termes de jours.
C'est sûr que les ressources sont limitées, mais en vous et moi, là, il n'y a pas d'usine qui ont fermé ou qui ont pris en feu. Ce que nous devons faire absolument, c'est nous devons repenser la façon dont nous travaillons aux soins intensifs. Je vous donne un exemple. Il n'y avait pas de propofol il y a 20 ans ou 25 ans. Okay? On avait des soins intensifs, puis on était capable de traiter des patients. Ben, c'est un peu ce à quoi on va devoir retourner, c'est-à-dire utiliser des molécules différentes à plus longue durée d'action parce que ces patients-là sont intubés en moyenne une dizaine de jours. Donc, des molécules comme le propofol dont on entend beaucoup parler, il faut les cibler pour des situations particulières pour s'assurer qu'il y a une ressource pour tout le monde.
OK, mais ça veut dire, est-ce qu'actuellement, à votre connaissance, il y a des opérations qui sont retardées parce qu'on gère le propofol?
Ben, on vous a dit, je pense que c'est assez clair là, qu'il y a beaucoup de délestages qui se font. Et ça veut dire qu'il y a des chirurgies pour le cancer du sein, cancer gynécologique, qui est ma spécialité présentement. Et oui, c'est retardé. Ça fait 6 semaines qu'il y a des milliers de patients qui attendent leur opération.
Docteur Delage, la question est, vous n'avez peut-être pas de réponse, mais comment je fais pour... Si vous êtes à Québec, là, que vous êtes décideur, là, comment je fais pour concilier une situation là, qui est hors contrôle dans les CHSLD, puis en même temps, m'assurer que les gens qui ont besoin d'être opérés pour un cancer, là, on va prendre cet exemple-là, le soient dans un délai qui est... On ne peut pas mettre les hôpitaux en pause, on ne peut pas dire on arrête tout ça, puis on envoie tout le monde dans les CHSLD. Comment je trouve l'équilibre entre les deux?
Bien, je crois que nos décideurs, à l'heure actuelle, sont dans une situation extrêmement difficile. Je voudrais pas être dans leurs souliers. Ceci dit, on est là pour les conseiller, puis on est plusieurs à être assis sur des tables au ministère. C'est un exercice qui va demander beaucoup de doigté, parce que il y a une situation critique sur laquelle il faut agir à l'heure actuelle. Mais il faut le faire, puis c'est pas juste en mobilisant des médecins, c'est qu'il va falloir mobiliser tout du personnel de santé qui ont de l'expertise, et il y a un gros risque de perdre une partie de cette expertise-là qu'on va avoir besoin, parce que là, il va probablement avoir une autre vague qui risque d'arriver éventuellement, parce qu'on parle de déconfiner une partie des activités dans la population. Donc, c'est un exercice, disons, qui va être très difficile, et il y a des choix très difficiles à faire en tant que société. Je pense qu'on doit tout de même continuer de donner des services à une partie de la population qui est en attente et qui, par surcroît, peut bénéficier des traitements qu'on peut leur offrir, soit les gens qu'on va opérer pour le cancer, les gens qu'on va traiter en cardiologie, les gens en santé mentale. Il faut faire attention de ne pas délester trop les activités pour un autre 2-4 semaines, parce qu'on ne sait pas combien de temps ce problème-là va perdurer et on ne sait pas combien de temps il va falloir agir. L'autre risque qu'on a aussi, c'est on doit cloisonner le système de santé à l'heure actuelle. On ne peut pas avoir du personnel, que ce soit des médecins, des infirmières, qui circulent d'un milieu à l'autre, d'un milieu contaminé vers un milieu qui n'est pas contaminé, au risque de contaminer l'autre partie du personnel, puis des malades qui ne le sont pas. Donc, c'est un exercice très complexe et il ne faut pas le faire en panique. Il faut le faire, il faut élaborer rapidement un plan puis le faire de façon intelligente et éviter de causer plus de dommages qu'on en a déjà causé.
OK. Docteur Courval, votre point de vue là-dessus?
Bien, je pense que vous avez utilisé le bon mot, équilibre. Ça va être une question de juste équilibre. Puis M. Legault a des choix très, très difficiles. Là. J'aimerais pas être dans ses souliers. Mais il faut aussi se rappeler que M. Legault a fait aussi des choix difficiles avant. Il a fermé la boutique tôt et ça nous a permis d'éviter le tsunami à laquelle on faisait face. Là. Parce que ce qui est arrivé en France et ce qui est arrivé en Italie, là, on l'a évité. Là, ce qu'il faut faire, c'est se préparer pour la deuxième vague. Et c'est ce qu'on fait. Puis nous, anesthésiologistes, ben, au bloc opératoire, on est prêts.
Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée.
Merci.
Merci, au revoir. Dr. Jean-François Courval, qui est le président de l'Association des anesthésiologistes du Québec, et Dr. Antoine Delage, président de l'Association des pneumologues du Québec. C'est un peu ça. Et la réalité, c'est pas de priver l'un pour l'autre, là. C'est de se dire, là, clairement, oui, puis j'ai parlé, je vous le dis, à beaucoup de médecins, puis il y a beaucoup de médecins qui m'écrivent, puis vous venez d'entendre deux médecins. Oublions le cash, là, puis oublions toutes ces questions-là, là. Puis le focus, c'est quoi? Est-ce qu'on peut aider dans les CHSLD parmi les spécialistes? La réponse est oui, puis il y en a qui le font déjà. Mais encore là, est-ce que ça veut dire mettre en pause, parce que c'est un peu ça qu'on est en train de faire, des opérations qui sont majeures, importantes pour des gens qui ont des diagnostics de cancer? C'est de trouver l'équilibre entre les deux. Je comprends que le feu est pris, là. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dans les CHSLD, qui restent 3 jours, qui ne veulent plus jamais y retourner. Les gens qui étaient bénévoles, là, portés par la bonne intention au début, là, puis qui lèvent les feutres parce qu'ils disent « Non, moi, c'est pas pour moi. » Des gens qui tentent d'y aller, la machine bloque. Je comprends qu'on improvise. Je comprends qu'on se ramasse avec des morts, là, puis des cas de centres qui sont des foyers de contagion avec de un nombre élevé de cas de patients contaminés. Mais comment tu fais pour trouver justement le point d'équilibre entre les deux? En disant, on s'occupe de ce monde-là, dans la dignité, puis en même temps, on s'assure qu'il y a des gens là qui ont des diagnostics de cancer. Puis ce matin encore, quelqu'un qui dit, ma femme a eu ça, un diagnostic, a parlé à son médecin vendredi, il faudrait que je vous opère, mais là, je peux pas. Je vous dirai quand je pourrai le faire. 7h35 minutes.